Et on veut vous entendre aujourd'hui sur la manière dont vous vous y prenez pour économiser. François est avec moi, puis on a des conseils aussi qu'on va donner, des trucs, comment y parvenir. On parlait du budget tantôt, oui. Ça fait réagir au téléphone. Nabil est là. Bonjour Nabil.
Oui, bonjour à vous, Jerry, M. François. Ma question, c'est que comment je peux appliquer sur le crédit d'impôt pour personnes aidantes, sachant que moi, je m'occupe de mes parents qui sont pas ici au Canada, sont en Tunisie, et je les envoie de l'argent chaque année pour payer des personnes pour s'occuper de... Je m'excuse, je suis un peu stressé.
Oui, non, je comprends. Non, non, mais malheureusement pour vous, ce crédit-là ne s'applique pas. D'abord, faut que vos parents résident, en tout cas, idéalement résident avec vous. Il faut qu'il y ait un certificat pour personnes handicapées. Ça, c'est la deuxième chose. Même si elle n'habite pas avec vous, vous pourriez avoir ce crédit-là. Mais à l'extérieur du pays, je ne me pense pas que ce crédit-là pourrait s'appliquer pour vous, malheureusement.
Parce que je me suis j'ai fait mes recherches et tout ça, et il y a longtemps, je vois qu'il y a une petite clause qui dit que les parents ou bien les personnes à charge doivent résider au 31 décembre au Québec ou bien au Canada.
Tout à fait, c'est la condition.
C'est ça, dans le nouveau système, c'est qu'il n'y a aucune chose qui mentionne ça.
Il faut qu'il soit résident ici, là, au moins, là, un minimum. Si vous vous en occupez, il faut que vous alliez le voir, s'en occuper physiquement. Mais le fait d'envoyer de l'argent à vos vieux parents dans un autre pays, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est clair, clair, clair et net dans mon esprit. L'esprit de la loi, c'est pas ça qu'elle dit, là. C'est d'être capable de s'occuper de ses parents.
Et Valérie, maintenant, voilà. Est là. Valérie, vous avez la chance de pas avoir perdu votre emploi pendant la crise. Et là, vous êtes en mode construction de coussins financiers.
Oui, effectivement. Chez nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on est en train de construire notre coussin financier. Alors, ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait régulièrement chez nous, à peu près aux 6 mois, c'est qu'on regarde ensemble notre budget, mon conjoint et moi. Une soirée avec une coupe de vin ensemble, on regarde notre budget.
C'est bon, ça!
En fonction de ça, on regarde aussi pour les prélèvements automatiques pour savoir dans un compte où on n'a pas accès autre que par Internet sur ce compte-là. Pour être sûr qu'on ne dépense pas pour rien.
Donc, j'avais un compte, une espèce de compte sécurisé, là.
Effectivement. C'est vraiment un compte qu'on a décidé d'avoir chacun de notre côté, mon conjoint et moi. Oui. On le met d'un côté, puis l'argent, dès que la terre rentre, il y a un prélèvement automatique, on s'en occupe même pas, le prélèvement se fait, il s'en va dans ce compte-là, puis on ne touche pas tout simplement.
C'est génial, ça.
Oh, ça, quelle belle idée, ça. Ça, c'est un autre truc aussi que je voulais donner tantôt, on va le donner tout de suite, vous l'avez dit, madame. Alors, le prélèvement automatique directement lorsque la journée de la paye. Alors, peu importe que ça soit 5, 10, 15 ou 20 $ ou 50 $ peu importe le montant, du moment qu'on soit capable de retirer ses sous, d'en faire un poste budgétaire pour économiser. Ça, c'est la plus belle chose que je n'avais pas faite, madame.
Et Valérie, j'ai une question parce que moi, ça m'est arrivé. Mon conseiller à la caisse m'avait dit, on va te mettre un compte barré, tu pourras pas y toucher. Puis quand j'avais 19 ans, à un moment donné, à l'université, j'ai appelé à la caisse, j'ai dit là, débarrez-moi ça. Là. Est-ce que vous avez déjà eu la tentation de le faire débarrer?
Ben, en fait, je suis un mode d'écureuil. Fait que moi, de nature, j'économise tout le temps. Ça m'a permis de m'acheter une maison au début de la pandémie. Fait que pour moi, c'est tout à fait normal d'être de fonctionner comme ça. Pour mon conjoint aussi.
Parfait. Merci.
Ah, c'est excellent, ça. C'est excellent.
Donald est là. Bonjour, Donald.
Bonjour. Premièrement, je vous adore.
Ah, vous êtes gentil.
Ah, c'est Donald de Saint-Hyacinthe.
Ça ressemble à ça, oui.
Celui qui joue de la guitare en écoutant l'émission musicale.
Bonjour.
Hey, moi, je suis à ma retraite depuis 2015. Oui. J'ai sauvé là pas loin de 5 000 $ juste en 12 mois. Parce que regardez, là, à ma retraite, c'est sûr, je prenais 2 cafés par jour minimum. De là, ça fait 730 $. Puis je prenais au moins un repas sur McDo, Tim Hortons, c'est ça. Mais là, 10 $, c'est 3 650 $. J'ai sauvé pas loin de 5 000 $. Mais, tu sais, ça valait-tu la peine? J'ai tout perdu ma liberté. Mais en tout cas, j'ai sauvé ça pareil.
Oui, non, je comprends. Là. C'est parce que la dernière année, ça a été une année plutôt exceptionnelle. Là. Un jour, on va retrouver notre vie normale.
On a sauvé.
Ben oui, on a sauvé de l'argent, c'est sûr. Quand je disais tantôt, c'est pas vivre, là, c'est pas s'empêcher de vivre non plus. Là. C'est faire un budget, faut pas s'empêcher de vivre. Là. Si vous avez le goût d'un petit McDo ou d'un Harvey's une fois de temps en temps, c'est bien correct. Là. Tu sais, il faut pas se priver non plus.
Oui, mais en même temps, je suis content que Donald apporte ce point-là, parce que tu regardes dans ta vie ce que tu dépenses beaucoup. Pour moi, c'est très clair, c'est la restauration. Et en même temps, je continue d'encourager les restaurateurs, mais on s'est dit avec Chérie, garde, on va cuisiner plus, comme je pense tout le Québec.
Ben
puis,
oui.
Tu dis deux fois par semaine la livraison au lieu de 4, 5, 6 fois, mais tu finis par économiser. Donc, c'est facile d'identifier quelque chose dans ton poste de dépense, le plus gros des postes de dépense, pour en couper un petit peu. Mais tu gardes ta joie et ta joie de vivre, c'est important aussi. C'est juste que c'est une question d'équilibre, clair. Comme chantait Francis Cabrel.
Oui.
On va parler à Nicole. Bonjour, Nicole.
Bonjour. Alors, moi, ben j'ai fait preuve de discipline. Donc, très jeune, j'ai commencé à mettre le maximum annuel dans mon REER. J'ai pu prendre ma retraite à 55 ans. Et à 60, j'ai pas pris le régime des rentes. Là, à 65, je suis rendue à 65. Là, j'ai dit, fédéral, il paraît que je peux attendre aussi. Je veux savoir si ça vaut la peine d'attendre. Parce que là, je décaisse mon REER. J'en ai amplement. J'ai pas d'enfant.
Oui.
Et bien là, évidemment, la maison est trop grande. Je vais vendre ma maison. Je vais avoir une grosse, grosse rentrée de fonds. Et je me dis, est-ce que ça vaut la peine d'attendre à 71 pour les deux régimes?
Oh! Ouais. Ça, c'est une grosse question, là. C'est sûr et certain que si vous attendez à 70 ans, là, avant de toucher à la régie des rentes ou encore à votre sécurité de la vieillesse, ça va être plus élevé encore. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se priver de ces sommes-là? Moi, je suis pas partisan trop de ça. Si vous aviez continué, si vous étiez au travail encore puis que vous aviez décidé de continuer de travailler jusqu'à 70 ans, ben là, je vous dirais, touchez-y pas. Là. De toute façon, la sécurité de la vieillesse, à un certain seuil, vous êtes obligé de la rembourser. Régie des rentes, c'est sûr que c'est un... Ça dépend de votre palier, là. Si vous avez avec vos fonds de pension, votre REER, etc., plus de 70 000 $ par année, je suis certain que vous vivez très, très bien. Là. C'est pas un 15-16 000 de plus qui va faire une différence, là. Mais ça dépend de vous, là. C'est vraiment votre décision.
Est-ce que c'est mon planificateur financier qui peut m'éclairer sur ça?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, parlez-en avec votre planificateur financier. Est-ce que, même avec l'espérance de vie à 85 ans, est-ce que vous allez avoir plus de sous en 70 et 85 qu'entre 65 et 85? Il y a un calcul à faire là aussi, là.
Parfait, Nicole. Un autre cas spécifique, mais c'est intéressant. Tu sais, quand tu veux retourner aux études, là, c'est quoi qui est le moins coûteux? Est-ce qu'un retrait de 20 000 de REER via le programme RAP ou une marge de crédit pour étudiantes du même montant? La caisse me dit qu'il vaut mieux payer des intérêts sur la marge que d'en perdre sur un REER. Annie.
Oui, je sais. Oui, le programme existe, mais c'est pas le RAP. Le RAP, c'est le régime d'accès à la propriété. C'est le REAP.
Le REAP. Hein?
Le régime d'encouragement à l'éducation permanente. Alors, il y a une limite annuelle de 10 000 $, puis vous pouvez le faire sur 2 ans d'affilée. Oui, vous pouvez retirer 20 000 $ de votre REER. Moi, je suis plus partisan de retirer de tes REER que d'emprunter sur la marge de crédit.
OK.
Moi, je suis pas
même si, il me semble qu'à l'époque, moi, j'en avais eu une marge de crédit étudiante, il me semble qu'il n'y avait pas de paiement à faire où tu payais juste un faible taux d'intérêt. Là.
Ben là, maintenant, ça dépend. Si tu as une marge de crédit personnelle, là, tu es obligé de rembourser un minimum. Hein, un minimum, maintenant, c'est la loi. Et un peu comme les cartes de crédit, pour éviter que ça te prenne 100 ans à rembourser ta marge de crédit.
Oui.
Mais tu sais, une marge de crédit de 20 000 $ là, mets ça à 5 % par mois minimum, là, ça te fait quand même un bon montant. Alors que le REAP, ben, tu l'as pour 10 ans et tu vas rembourser 1 000 $ par année dans ton REER. Oui, c'est vrai, on va perdre du rendement. C'est vrai. Mais est-ce que le rendement que vous allez perdre est moindre que l'intérêt que vous allez payer sur votre marge de crédit personnel? Parce que la marge de crédit personnel, là, c'est pas 2 %, là.
Parfait. 11h29, on va revenir dans un instant. On se parle de budget, comment économiser, c'est quoi vos stratégies pour y arriver. On revient dans quelques minutes. 514-790-9850, 1-866-790-9850.